France Inter.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
La limite red.
Un poisson bien connu des Bretons.
C'est un poisson du coin. On peut le manger cru comme on peut le manger cuit.
Vous avez la dorade grise, vous avez la dorade rose qu'on connaît sur nos côtes françaises.
Des O ou des AU. D'une façon un peu globale, je dirais que dans le nord, on met un O et dans le sud, on met AU.
Donc la dorade royale, AU, c'est la seule dorade qu'on peut écrire comme ça. Toutes les autres, ça sera D-O-R-A-D-E. Elles naissent toutes mâles et à peu près à 3 ans, elles deviennent femelles. Et on la reconnaît, la dorade royale, parce qu'entre les deux yeux, on a cette petite couronne qui nous fait penser à la reine et au roi. C'est pour ça qu'on l'appelle dorade royale.
Salut les dorades.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on pêche et on cuisine l'un des poissons préférés des Français, la dorade, ou plutôt les dorades, car il y a la grise et la rose, il y a celle qui s'écrit D-O et D-A-U, la dorade de Méditerranée et celle de l'Atlantique, la sauvage et celle d'élevage, bref, on va voir que le monde de la dorade est un monde très vaste où on navigue parfois un peu en eau trouble. On va y voir plus clair avec nos reportages et notre invité Charles Guiriec, bonjour.
Bonjour, j'espère que vous êtes prêt à être dégrisé. Comme le nom de la dorade grise.
Pas mal. Et vous avez la pêche
La pêche toujours.
C'est ça. Vous venez régulièrement nous parler de poissons et de produits de la mer, des filets jusqu'à l'assiette. Vous êtes à la barre de Poiscaille, vous nous en expliquez le principe.
Poiscaille.fr, la version marine du panier de légumes, partout en France. Vous vous inscrivez sur Poiscaille.fr et vous recevez la fréquence de votre choix. Poissons, coquillages, crustacés, frais, durables, éthiques. Pour de vrai.
Ah bah oui, on espère bien que c'est frais, durable et éthique. Et éthique, ça c'est important. Dans un monde où la pêche intensive fait des dégâts, ça fait du bien de parler de pêche douce et j'imagine qu'il y a de la dorade au menu en ce moment.
Il y a de la dorade, elles sont pas encore là parce qu'il fait quand même chaud et donc les sorties massives et les migrations massives ne sont pas encore là, mais elles commencent à pointer leur nageoire.
Charles, vous allez répondre à nos questions et nos nombreuses questions sur la dorade. Vous allez aussi la cuisiner pour nous, crue, cuite, voire cruite.
C'est la spécialité.
Également à bord de cette émission, notre chroniqueuse italienne Alessandra Pierini et notre chroniqueur vin Antoine Gerbel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Alessandra.
Moi, je vous dirai comment la dorade pourrait changer votre vie.
Très bien, Antoine.
À une petite énigme, nous allons prendre de l'altitude, 1909 mètres précisément, et notre vélo, tiens, autre indice, pour découvrir de nouveaux vins blancs qui se marient si bien avec la dorade.
On est un peu dans le sud.
Un peu beaucoup.
Bon, poursuite de l'énigme tout à l'heure avec votre chronique, cher Antoine. On veut vos questions et vos recettes autour de la dorade à la maison. C'est Alessandra qui va s'en occuper. Un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou un clic depuis l'appli mobile de France Inter. Toutes nos émissions, nos chroniques, nos infos, nos recettes, nos podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour entamer cette émission, on va faire chin-chin. Non, je rigole, il n'y a pas d'alcool. J'ai versé dans vos gobelets en carton une petite surprise gourmande. Pourriez-vous m'en dire quelque chose, olfactivement, visuellement, gustativement, Alessandra Pierini?
C'est donc un liquide très ambré foncé.
Oui.
Moi, je viens de le déguster. On dirait un peu un mélange de vinaigre balsamique traditionnel, colatura d'anchois et jus de date.
Wow.
Ça fait un peu...
C'est votre dernier mot.
Oui, ça fait un peu ce mélange aigre-doux avec de goût un peu fruité.
Il y a de l'acidité, il y a de la rondeur, il y a de la douceur, il y a de la profondeur. Ça, c'est sûr, c'est pas tout à fait les ingrédients que vous avez cités. Mais en tout cas, on est dans cet univers aromatique,
alors,
Antoine Germain.
Moi, je pensais que comme votre nuit était très courte, c'était un petit café très serré. Non, parce que ça ressemble de loin.
Pourquoi ma nuit courte? Non, j'ai bien dormi.
Et c'est très iodé. Il y a de l'agrume, je trouve, au niveau du nez.
Là, vous avez
Puis après, c'est très fort en bouche, faut le dire. Il y a du poisson, non? Il y a un petit clin d'œil avec un.
Je me dis juste au soja, en fait.
Ah oui,
ça pique un peu à la fin.
Ouais.
Et c'est assez fortement iodé, ça.
Alors, vous avez prononcé un mot intéressant. Agrume, je dis oui. Poisson, je dis non. Charles Guiriec.
Moi, j'aurais dit juste sauce soja.
Bah oui, sauce soja. Ouais, bravo, c'est l'essentiel de cette sauce, mais il n'y a pas que de la sauce soja. En tout cas, vous y êtes tous à peu près.
Bonite, du thon.
Alors, il n'y a pas de poisson. Pas de poisson. C'est vegan.
En tout cas, c'est très
bon. Mais par contre, c'est censé ressembler a une spécialité japonaise qui comporte de l'abonite.
Le petit piquant.
Et il y a un petit piquant, vous avez raison, c'est peut-être le résultat d'une certaine lactofermentation. Mmh. Allez, on y va. Dans la sauce des condiments japonais, je demande le ponzu. Ben voilà, vous l'aviez.
Je l'avais,
Alessandra,
oui.
Ponzu, c'est à l'origine un mélange, vous l'avez dit Charles Guériec, de sauce soja, de dashi, je dis bien à l'origine, de dashi. Le dashi, c'est composé de bonite séchée et d'algues kombu, et ça donne beaucoup de profondeur. Les Japonais emploieraient le mot de umami. Et on ajoute à tout cela, et c'est là où Antoine Gerbel a raison, travail d'équipe entre vous trois, la fraîcheur d'un agrume. Ce peut être, dans la sauce ponzu, du yuzu ou du citron. Eh bien moi, je vous propose une sauce ponzu en version totalement vegan, c'est-à-dire sans poisson, sans bonite séchée, Alessandra, composée de sauce tamari, une variante de la sauce soja qui est exclusivement composée de fèves de soja et pas de blé, contrairement à la sauce soja normale qui comporte justement du blé et donc du gluten. Il y a également du vinaigre de riz, une touche d'algues kombu pour la profondeur, et comme agrume, c'est le citron vert, la lime, voilà. Et ça, c'est une nouveauté de Autour du Riz, une entreprise alimentaire située au Versou, dans la vallée du Grésivaudan en Isère, spécialisée dans les poissons ça c'est le menu de l'émission qui m'influence, dans les produits équitables d'Asie, voilà. Et cette sauce ponzu est fabriquée sur les hauts plateaux du Shanghai, en Thaïlande, dans des micro-fermes agroécologiques, que des poissons, que des produits issus d'une agriculture biologique et régénératrice compose cette sauce. Il n'y a aucun additif, zéro colorant ni conservateur, donc pas de gluten puisqu'il n'y a pas de blé. Et ce produit est fabriqué loin, mais il arrive sur le marché français avec le transport maritime pour limiter son bilan carbone. Vous le verriez bien sur de la dorade crue, Charles Guériec?
Carrément, ouais. Même mieux que la sauce soja, je trouve, qui est parfois un peu écœurante ou trop salée. Ça passe nickel. Hein.
Et la touche vinaigrée, c'est le vinaigre de riz aussi. Hein.
Très parfait.
Et donc ça donne un très bon équilibre.
Bien sûr.
Voilà, ou sur du poisson blanc,
étonnant.
Ou sur une salade d'algues.
Petite vinaigrette.
Même sur une salade de tomates. Je l'ai essayé, c'est formidable. 4,95€ la bouteille de 200 ml dans tous les magasins bio et sur la boutique en ligne de Autour du Riz. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Jérôme Ragano à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et la programmation de cette émission, La Dorade. Juste après Mustang du 26 de Stéphane Milošević, choisi par l'ami Djoubaka, vous êtes bien sur France Inter.
Malaga, cheval zala, fils de l'amour, barbe de l'année. Hier j'ai prié, nu sur la rive, mais faut pas rêver, le ciel est vide. J'ai enfilé la crinière noire de mon appalousa d'un soir. Bienvenue dans la plaine acide, vas-y, prononce mon nom terrible. Tous les soirs je suis comme Lazare, juste une prière et puis je repars. Une étincelle, je brûle toute la nuit. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Au canyon, je suis Cobra Narvalo. Tension dans quoi tu mets le doigt quand tu me follow. Sache que tous les rubans glissent sous Mustang du 26. Du 26, lundi. mardi, ravie la gardienne du désert. Mardi, sous le scalp, le décor. Mercredi, j'ai flirté à la frontière. Jeudi, nique ta bride et nique tes morts. Vendredi, je sais même plus si je pense. Ouais, samedi, dimanche, c'est jamais les vacances. C'est tous les jours que le Mustang court sous le fils de l'amour.
En guise de mise en bouche, je vous emmène à 7. Alors que mon micro se baladait dans le quartier du Barou, je tombe à l'heure de l'apéro sur deux sacrés numéros. Philippe Fasanaro, professeur de pêche, et Robert Rumeau, pêcheur sur l'étang de Thau, prononçaient le mot dorade et vous allez voir, les langues se délient.
Donc nous, les deux espèces phares typiques du bassin de Thau, c'est la dorade, évidemment royale, et l'anguille.
Meilleur poisson, je dis ouais, le loup et tout, ouais, la soie, je dis pas, c'est bon. Mais la dorade, quand elle sort de l'étang à la bonne période, elle a mangé des crabes, elle a mangé des vers, elle a mangé des moules, elle a mangé des palourdes, elle a mangé...
Malheureusement pour les cochiculteurs.
Tout.
Mais alors attendez, il y a dorade et dorade en termes d'espèces quand même.
Et nous, on n'a que la royale. Hein.
C'est la royale, nous.
Après, il y a pour les Parisiens, la dorade grise, là, le truc qui ressemble à rien. La royale. Hein, la
et elle a un nom latin ou pas, cette...
Il faut que j'appelle Dessin, mais Dessin, il est mort, le pauvre. Et... lui, c'était un scientifique hein, de la mer. Et...
La dorade royale, tu ne peux pas la banquer, hein, parce qu'elle a cette couronne qu'elle a au-dessus des yeux. Et c'est ce qui fait son charme, la dorade, que tu
vois... Derrière Louis. Et en plus, quand tu verrais les mâchoires de grosses dorades... 7-8 kilos, quand tu vois la dentition, la mâchoire de cette dorade-là, tu hallucines.
Et est-ce que vous la mangez crue?
Ah oui, alors, et tartare, contre, malheureux.
Et le tartare, vous mettez quoi, huile d'olive?
Non, et vous bugiez, tu veux mettre de l'huile de raisin là?
Non mais je veux dire, qu'est-ce que vous mettez d'autre à part de l'huile d'olive?
Il y a piment d'Espelette, il y a un petit peu d'ail, il y a moi je mets de la menthe, j'ai la menthe réglisse, le basilic, l'ail, puis qu'est-ce qu'il y a encore? Le poivre est moulu, et pour les jeunes, il y a qui ont besoin, hop, je mets un petit peu de mangue ou des avocats, tu vois, pour augmenter la couleur aussi, pour faire le bavé.
J'espère que vous choisissez des mangues de 7, hein.
Oui, elles n'arrivent pas là-bas. Là, je parle à la plage. Hein.
Et vous, comment vous la cuisinez, la dorade royale?
Nous, on la cuisine évidemment soit au four avec quelques tomates dessus, suivant la grosseur. Et par contre, j'ai eu la chance de. J'avais jamais mangé des dorades comme ça, des grosses. Hein. Des gros poissons à partir de 2 kg, 2 kg et demi, en croûte de sel. Alors, ça, c'est extraordinaire. Mais ça garde tout le goût et toute la saveur, automatiquement. Mais alors, en plus, il est onctueux.
La dorade, donc la pêche, c'est l'automne, mais ça finit quand?
Alors, ça dépend. Par exemple, cette année, la migration, elle a commencé de bonne heure. Elle a commencé fin janvier. Quand on parle de migration, c'est le poisson qui rentre dans l'étang. Alors, on attaque la pêche à la dorade, on travaille de nuit. On fait ce qu'on appelle la battue. Donc, à nous à connaître l'étang, autant de jour que de nuit, pour déjà y naviguer dessus, jusqu'à à peu près 15 septembre. Et après, jusqu'à fin octobre, c'est la migration inverse. Le poisson qui va s'en aller de l'étang, qui va aller se reproduire à la mer. C'est là qu'on pêche beaucoup de dorades. Il n'y a aucune problématique sur le stock de dorades. Ah non.
C'est pas un poisson menacé?
Non, pas du tout. Et moi, j'ai commencé l'activité en 1981, j'avais 17 ans. Je vais en avoir 59 cette année. C'est une passion et j'espère que je continue encore.
Discussion animée c'est bon. Et un peu arrosée aussi. Entre pêcheurs au bord de l'étang de Thau, vous êtes d'accord, Charles Guérec, pour dire que la dorade royale, c'est le poisson roi de l'étang de Thau?
Oui, alors ça, je suis d'accord, y a pas de problème. Par contre, dire la dorade grise pour les Parisiens, je pense que si vous leur avez parlé de la saupe, ils vous auraient dit ça se mange pas, c'est toxique, c'est dommage parce que c'est des poissons qui sont excellents quand ils sont pêchés dans les bonnes conditions et bien conservés.
Donc oui, pour la dorade grise.
Ah ben allons-y.
Et pas que pour les Parisiens.
Et pas que pour les Parisiens, pour tout le monde.
Mais c'est vrai que la dorade royale, il y a comme une espèce de hiérarchie dans ce monde de la dorade. Alors est-ce que c'est son nom? Est-ce que c'est son goût? Est-ce que c'est ces petites couronnes qui justifient d'ailleurs son nom, qui fait que c'est la dorade noble par excellence?
Oui, c'est celle la plus connue, puis maintenant avec l'élevage, elle est disponible tout le temps sur le marché, donc on ne voit qu'elle, et elle domine sur n'importe quel étal de poissonnerie, il y aura forcément de la dorade royale, alors elle viendra de l'autre bout de l'Europe, de Turquie, de Grèce élevée, mais faut mieux une dorade grise de Méditerranée bien pêchée, consommée crue, fraîche ou cuite, mais fraîche, qu'une dorade mal élevée au fin fond de la Méditerranée, nourrie avec du granulé qui vient de l'autre bout du monde et qui génère toutes les migrations qu'on voit en ce moment en Méditerranée parce que les populations locales ont plus de poissons à manger. Donc la dorade grise pour les Parisiens, c'est quand même ancien. Ouais, ça me laisse une petite arête.
Oui, l'arête de basse, c'est ça. Revenons sur cette petite coquetterie orthographique. On est d'accord que dorade royale, on l'a entendu dans l'accroche que nous a mitonné notre réalisatrice Laurent Thomas. Est-ce que c'est vrai que la dorade D-A-U serait uniquement l'orthographe réservée à cette espèce qui est la dorade royale?
Ouais, il n'y a pas de vérité, mais c'est vrai qu'on voit souvent la dorade O ou AU. Mais la dorade royale s'appelle Aorata, Sparis Aorata.
Ça, c'est le nom latin.
AU, et c'est son nom latin. Aorata, c'est Auris, c'est l'or.
Auris, beaucoup.
Et donc, ce serait de, comme ça, la coquetterie serait de dire j'écris dorade royale que D-A-U et toutes les autres avec un O parce qu'elles n'ont pas ce nom doré, on va dire, ou ce nom latin doré, et elles n'ont pas les fameux sourcils d'or qu'a la dorade royale, c'est-à-dire entre les deux yeux, elle a une marque jaune qui permet de la différencier nettement des autres.
Vous avez aussi cette petite ambiguïté orthographique en italien, Alessandra, avec la dorade?
Nous, la dorade, on l'appelle orata.
Avec un O.
Avec un O. Et donc, ça vient du latin, bien sûr, aurata, qui s'écrit A-U.
Donc, A-U en latin, O en italien. O. Voilà.
Oui, parce que aurum, latin, ça donnait oro, or, en italien.
Voilà. Donc là, c'est, au moins pour l'italien, c'est peut-être un peu plus clair. La dorade royale, elle ne se trouve pas qu'en Méditerranée, évidemment. C'est une espèce qu'on trouve aussi dans l'Atlantique, Charles Gariec.
Tout à fait. On la trouve sur tout l'Atlantique, même jusqu'en Manche. On a des pêches jusque autour de Saint-Brieuc. Là, il y a les grosses dorades royales qui passent. On la trouve beaucoup dans la rade de Brest. Les ostréiculteurs et mytiliculteurs s'en plaignent parce qu'elles font des ravages sur les cultures d'huîtres et de moules. Pareil, à Quiberon, il y a des gros coups de pêche. Et bassin d'Arcachon, on a aussi des très beaux passages, notamment là en ce moment, ça va commencer. Mais oui, on la trouve sur toutes les côtes. Elle n'a pas encore arrivé en Normandie, mais il y a quelques pêches de ligneurs, de dorade royale, de ligne. Voilà, ponctuellement. Donc, je pense qu'un peu avec le changement climatique, elle en profite et elle remonte aussi vers des zones plus au nord où elle va être plus présente dans le futur.
On n'est pas sûr de tout comprendre sur la saison de la dorade royale. Quand on entendait nos pêcheurs de Sète, ils nous disaient que c'était essentiellement la grosse saison, c'était à partir de l'automne. Et puis, ça se poursuivait au fil de l'année. Que peut-on dire à nos auditeurs et auditrices?
Il faut se dire qu'il y a deux pics de pêche. Donc, printemps, quand elles rentrent dans les étangs, c'est exactement ce qu'ils disaient. Et automne, quand elles sortent. Alors, en général, le pic de l'automne est plus important que celui du printemps parce qu'elles sortent vraiment toutes ensemble, alors qu'elles rentrent plutôt de manière disparate. Mais après, côté Atlantique, on a des pêches parfois assez importantes, ponctuellement. Sur ce que les pêcheurs appellent des boules de dorade dans lesquelles ils tombent, c'est ce qu'ils disent, où là il peut y avoir des grosses pêches. Et après, on a une pêche un peu régulière, pareil entre le printemps et l'automne, à la ligne, à la canne, de toutes ces dorades royales, plutôt Bretagne, Bretagne Sud. Gros pic de pêche printemps automne et puis entre les deux il y en a un petit peu tout le temps. L'hiver la royale on en trouve quand même moins de la royale sauvage. En gros entre fin novembre et fin février selon les années elle est un peu plus rare, elle est au large donc il y a toujours quelques bateaux qui en attrapent mais elle est moins présente en masse.
On a l'impression que la dorade royale est assez alors je mets 14 guillemets abondante sur l'étal du poissonnier. Par ailleurs, c'est confirmé par les pêcheurs de Sète qui nous disent « Ben non, on manque pas de ressources. La dorade royale est bien là, au rendez-vous. » Est-ce que c'est confirmé scientifiquement? Quel est l'état des stocks de dorade royale?
Le stock de dorade royale est juste pas évalué. Ah. Donc, alors en général, un stock qui est pas évalué, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'on n'a pas vu de chute dans les débarquements.
Ouais.
Et comme la dorade royale est une espèce commercialement importante pour plein de pêcheries, si ça commençait à manquer, les pêcheurs s'en plaindraient auprès des scientifiques et on commencerait à regarder, évaluer le stock plus précisément. Donc globalement, c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt en bon état. Moi, j'ai quelques inquiétudes parfois sur la Méditerranée où je trouve que parfois les pêches sont sur des individus trop petits, donc moins de 250 grammes. Nous, chez Poiscaille, on dit aux pêcheurs, désolé, mais oui, vous avez le droit légalement de les prendre, mais on préfère pas les prendre. On préfère les prendre quand elles ressortent des étangs ou après plusieurs années, quand elles dépassent ces 250 et plutôt entre 500 grammes et 1 kilo, parce qu'il peut y avoir un manque de recrutement. Donc là, ce serait pas bien de les pêcher quand elles se sont pas reproduites. Et c'est vrai que côté Atlantique, ça a l'air plutôt pas mal. En fait, c'est un poisson hyper méfiant. Et donc, ça la protège un peu des pêcheurs. Il y a plein de pêcheurs qui se sont cassés les dents dessus, aussi bien amateurs que professionnels, parce que elle est tatillonne. Dès qu'il y a un fil qui la dérange, elle prend pas. L'hameçon, elle va peut-être le sentir. Les filets, c'est connu dans le bassin d'Arcachon qu'elle les suit tout le long du filet. Et c'est pour ça que les pêcheurs font ce qu'ils appellent des escargots au bout, c'est-à-dire qu'ils enroulent le filet pour qu'elles se retrouvent bloquées. Et à chaque fois, les royales, elles sont prises dans les bords du filet, jamais au milieu. Donc, je pense que ça la préserve un petit peu. Après, parfois, elle est folle quand elle sort des étangs où vraiment, là, c'est la grande migration. Ils vont tout droit et puis peu importe qui se dresse devant elle.
On peut la pêcher au chalut ou à la ligne?
On la pêche à toutes les techniques. Le chalut est majoritaire, mais il est majoritaire en France sur quasiment toutes les espèces.
Là, on parle donc d'un gros filet ramasseur.
un peu trop gros à mon goût par moment, et c'est pour ça qu'on en fait pas chez Poiscaille. Mais en Méditerranée, par exemple, les pêches d'étang, ça va être beaucoup au filet ou ce qu'on appelle au verveux, ces entonnoirs dans lesquels on va récolter les poissons et puis les garder vivants. Et puis oui, il y a un peu de pêche de ligne, quelques pêcheurs en Méditerranée y arrivent, plus en Atlantique, j'ai l'impression, rade de Brest, il y a quelques ligneurs qui font des royales entre 1 et 4 kilos, alors là c'est des sacrés, des placards comme ils disent, et ça se pêche à la ligne, mais c'est vrai que c'est surtout, je pense, filet droit où ça se pêche, et puis chalut et ligne derrière.
La dorade royale, AU, on l'a compris, est donc la plus connue d'une grande famille de poissons, qu'on appelle les
Sparidés.
Les Sparidés, c'est bien ça. Et là, Charles Grayek, comme à votre habitude, on a carrément, on a la famille dorade, on va dire, sur le plateau dont on va déguster. C'est absolument spectaculaire. D'autant que vous les avez filetés, c'est-à-dire que vous avez levé les filets. Ils sont là sous les yeux d'Alessandra Pierini. Et on va pouvoir tester la différence même au niveau cru. Parce que, il y a effectivement des cousines proches, il y a des faux amis, on peut distinguer aussi différentes couleurs de dorade. Alors, essayons d'y voir plus clair avec vous dans la généalogie de la dorade.
Alors, j'ai essayé de les classer, mais c'est un classement qui n'engage que moi. Donc, ce que j'appelle les cousines proches, c'est celles qu'on va retrouver régulièrement sur les étals, notamment la dorade grise, donc c'est celle qui est la plus présente partout en France, enfin Méditerranée,
celle qui était donc méprisée par nos amis de Sète,
exactement,
hein, c'est ça,
et qui est dans certains endroits pas pêchée alors qu'elle est abondante et ce serait bien de la manger, et c'est excellent. La marbrée, alors qui elle est plutôt cantonnée au sud-ouest, donc entre Vendée, Charente, bassin d'Arcachon, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz.
Oui.
Elle remonte un petit peu là vers le nord, mais voilà. Et celle-là, elle est, moi j'adore la marbrée, c'est vraiment un kiff, le pataf, comme on dit dans le bassin d'Arcachon.
On peut la trouver sur l'étal, dorade marbrée.
On peut la trouver sur l'étal.
Elle a effectivement des marbrures.
Elle a des marbrures, on la voit, des marbrures qui sont droites, et ça permet vraiment de la distinguer. Elle a souvent des nageoires oranges quand elle est bien sortie de l'eau. Et ça, franchement, moi je trouve que c'est gros kiff. Le sar aussi, pareil, qui est pas très connu et pourtant qui est excellent. Pareil, plutôt sud-ouest, mais ça remonte, on en trouve à Quiberon, on en trouve un petit peu partout. Et son pays de prédilection, on va dire, c'est plus la Méditerranée. Mais en Méditerranée, je trouve qu'on en trouve moins que les dorades royales.
Oui.
Et après, on passe à la catégorie des roses.
Et oui, les dorades roses.
Un pan des dorades qui sont des sparidés qui sont roses, donc pajot, pagre, pajot à carnet. Et la dorade rose, alors ça, franchement, en termes de goût, tout est magnifique.
Ah, carrément.
Ah ouais,
donc la dorade rose, si on la trouve sur l'étal, on fonce.
Ah, ça, faut y aller.
À condition, évidemment, juste qu'on se renseigne sur ses conditions de pêche, ses origines, etc.
Faut juste faire gaffe sur la dorade rose, celle avec le gros yeux, donc souvent appelée beaux yeux, je crois, dans certaines zones. Les stocks en Bretagne, Pointe Finistère, ont été saccagés dans les années 70. Il commence à peine à se remettre, donc là il faut vraiment y aller avec parcimonie. Nous chez Poiscaille, on a 30 kilos par an que les pêcheurs ont le droit de pêcher, qu'ils nous envoient, mais en fait ils les vendent souvent au local et tant mieux. Ça vaut très cher. On en a un petit peu de Méditerranée qui sont pêchés dans les profondeurs, là dont les stocks, je pense, vont peut-être un peu mieux, mais pareil, pas évalué, donc difficile de savoir. Mais le pagre, par exemple, se développe beaucoup avec
bon,
le réchauffement climatique.
Pagre.
C'est le fameux taille des Japonais, la dorade, voilà.
Exactement.
Rose, et ça,
c'est bon en cru, c'est bon en cuit, sa chair est.
Ouais, on est vraiment là au top. Le pajot à carnet, petit, parfait en petite friture et tout ça. Le pajot, souvent mal aimé, tout rose avec son gros œil jaune. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il est un peu fragile, mais pourtant c'est génial, et ça on en trouve pareil un petit peu partout. Et puis après, on passe à celle pour les Parisiens, comme disait notre ami.
Qui sont mal aimés.
Qui sont mal aimés, et qui pourtant, en fait, pareil, nous on en a mangé pas mal fraîches, et on avait les mêmes a priori que lui à l'époque, avec Poiscaille, avec celles qu'on reçoit direct des pêcheurs. Je pense à la saupe, à l'oblade, à la bogue.
Alors la saupe, là, on parle vraiment d'un poisson assez oblong, avec des stries jaune vif.
C'est ça,
sur
qu'on appelle dorade jaune parfois.
Parfois dorade jaune, et qui peut avoir, parce qu'elle mange beaucoup de posidonie, elle est très herbivore, et qui a
parfois
réputation. Un goût un peu vaseux. Je le reconnais parce que moi-même j'en ai fait l'expérience.
Il faut qu'elle soit vidée à bord. Il faut qu'elle soit vidée à bord, parce que c'est un herbivore, c'est une dorade qui mange de l'herbe. Mm-hmm. Il faut qu'elle soit vidée à bord, et franchement, après cette étape-là respectée, moi je trouve ça excellent. Pareil la bogue, moi je considérais que c'était pareil à mettre à la poubelle, et en fait j'en ai goûté cru, cuisse, je trouve ça génial.
D'accord.
Et après on a des espèces de toutes petits sparidés, moi que j'appelais les sous-pieds. Mm-hmm. Donc là on parle du picarel, de la mandole, du sparaillon. C'est les petits sars qu'on a là qui finissent souvent dans la soupe. Et qui en fait sont pêchés en même temps qu'on pêche les poissons pour la soupe, pour la bouillabaisse, et qui pareil sont excellents à déguster.
Mes origines méditerranéennes m'obligent à vous demander des nouvelles du denti.
Ah, le fameux denti, bah, le roi, on va dire, le roi des sparidés.
C'est pas la dorade royale, la dorade royale, c'est la reine.
Ça serait la reine, okay. Et le denti, le roi.
Parce que le denti, on est bien d'accord que c'est aussi un
c'est
cousin
un
de la dorade.
C'est un sparidé qui, lui, au lieu de manger soit des herbes comme la soupe ou la dorade grise, mm-hmm. ou des crabes et des moules comme la dorade royale, va carrément manger des poissons. Il chasse des poissons, des calamars, etc. Donc, ça peut être un poisson qui fait 10, 12, 15 kilos, je sais pas quels sont les mythes des plus gros, mais qui chasse. Et pareil, c'est un poisson qui est magnifique, assez rare, mais si on tombe dessus et qu'il est beau, bah, c'est un gros kiff à se faire entre amis, une belle pièce, un beau denti. Ah ouais. De sel ou basse température.
Compliqué à trouver sur l'étal du poissonnier, oui, c'est plutôt direct pêcheur. Mais alors.
Parfois sur poiscaille.fr.
Ah, waouh, il en profite pour faire sa pub. Bon, en même temps, c'est pour la bonne cause puisque vous êtes dans un système particulièrement vertueux. Antoine Gerbel, Alessandra Pierini, la belle surprise de toutes ces dorades et cousins, cousines, levées et servies crues comme ça en filet, Alessandra.
Ouais, c'est magnifique. Moi, j'ai une grande préférence pour le denti parce que bon, à Marseille, il est là, oui, oui. C'est celui qui a la chair la plus
vient de la
Ciotat, ferme.
De Gérard Carodano.
Ah oui, j'en ai souvent mangé à Marseille, donc pour moi,
moi j'en ai rarement mangé cru, hein, du denti.
Particulière. Et après, elle a dorade marbrée, très intéressante. Elle a la chair la plus foncée. Et d'ailleurs, ben, on la,
c'est
la distingue.
C'est ma préférée.
On est d'accord que manger un poisson cru au naturel, sans même sauce ponzu, sans huile d'olive, sans rien, sans même fleur de sel, bah, c'est finalement la meilleure façon de distinguer les qualités de chair, leur consistance, leur saveur.
Exactement. Antoine. Je ferai une comparaison avec le raisin, l'épaisseur des peaux, le croquant du pépin au moment des vendanges. Mais c'est vrai que merci, hein, c'est très pédagogique cette petite. Faut expliquer à nos auditeurs. On a une petite planche en bois où tout est bien marqué avec les origines. Et je trouve ça, c'est un exercice qu'on pourrait même faire à la maison. Ce serait super d'avancer comme ça l'explication du goût.
C'est avec... dur d'avoir toutes les espèces sous le palais.
C'est sûr. Mais là, c'est un exercice formidable. Et Charles Guérec, toutes les dorades cousins cousines peuvent se consommer crues.
Oui, toujours avec la précaution, attention, de bien congeler avant consommation crue. Il y a une recrudescence des signalements de services vétérinaires sur des risques de parasites. Mmh. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on mange plus de poissons crus, c'est plus à la mode, ou est-ce que parce qu'il y a plus de parasites dans les poissons liés à des changements des milieux? Mais en tout cas, on fait attention. On a pris le réflexe sur le cochon avec le ver solitaire. On fait pareil avec les poissons. On congèle avant pour être sûr. Si vous prenez des risques, bah vous le tentez, mais il y en a certains qui font vraiment des réactions très mauvaises jusqu'au choc anaphylactique. Et donc, attention.
Notre planche, là, tout est congelé.
Tout a été congelé avant, a été congelé une semaine, a été décongelé au frigo 24 heures, décongélation douce, hein, s'il vous plaît, pas au micro-ondes ou sous l'eau chaude. Et voilà.
Très bien.
Un dernier truc sur le goût des dorades. En automne, celles de Méditerranée, souvent, elles ont un goût un peu herbacé.
Ah.
On sent vraiment la différence. Et les pêcheurs, ils nous l'ont montré, hein, entre celle de mer et celle de l'étang, donc celle du large et celle de l'étang, il y a une vraie différence. Et si vous voulez un peu plus de goût herbacé, bah, mangez-les en automne, et les pêcheurs ont besoin qu'on les achète.
On va continuer de toute façon à parler de la dorade, évidemment. On va évoquer ce sujet brûlant de la dorade d'élevage, parce que c'est un des poissons les plus élevés, justement, en France et à l'étranger. Mais on va faire une petite pause liquide avec notre ami chroniqueur vent Antoine Gerbel. La Méditerranée en version blanche pourrait bien couler dans nos verres.
On va déguster sur France Inter.
Alors bien évidemment, face à cette marée de dorades, j'ai pensé au vin blanc, à vous raconter une histoire de vin blanc. Je vais vous raconter une histoire récente qui m'est arrivée. J'aime beaucoup en ce moment découvrir, j'en parle assez régulièrement à ce micro, de la légitimité des blancs du Sud,
oui.
Qu'on redécouvre d'une manière étonnante.
On vous a beaucoup vu dans vos aventures trépidantes sur Instagram, Antoine Gerbel. Invitons nos auditeurs et auditrices à aller suivre vos aventures d'ailleurs.
Et justement, une remarque, vous savez que bon, le réchauffement climatique dans la viticulture, culture, plus personne ne le nie. Mais ce qui se passe, c'est que cette notion d'acidité dans les vins blancs, bah, aujourd'hui, on se remet en question. Et surtout, c'est ce doxa qu'un vin blanc doit vieillir forcément sur son acidité. Vous allez aujourd'hui en Champagne, dans la Loire, en Alsace, et les grands vignerons repensent ça, parce que c'est la maturité du raisin qui fait d'abord aussi la structure, la tenue d'un vin blanc. Alors, je m'intéresse au blanc méditerranéen. Alors là, on va prendre un petit peu d'altitude, parce que je vous emmène dans le Ventoux.
Ah, voilà, alors, ça y est, le mot est lâché. C'est pour ça que vous parliez de vélo tout à l'heure.
Voilà, V-E-N-T-O-U-X. Alors, on ne présente plus le géant de Provence, ce phare du Vaucluse, dont la pointe culmine à 1909 mètres. J'ai vérifié, hein, c'est souvent 1912, marqué sur... Mais l'érosion est là, et cette pointe très blanche que on peut imaginer de la neige en été, c'est un peu compliqué. C'est bien évidemment du calcaire comme ça, très immaculé, qu'on voit très loin. Et le Ventoux, on le voit de loin, on voit de l'Ardèche, on le voit du Gard, on le voit de la Drôme, on le voit des Bouches-du-Rhône même. Je vous parle des départements qui entourent bien évidemment le Vaucluse. Et on le connaît encore plus loin grâce aux retransmissions télé de son ascension à vélo lors de mythiques étapes du Tour de France. Les meilleurs cyclistes du monde ont gravi le Ventoux et tout cycliste du dimanche rêve de grimper ce sommet dans la roue des exploits de Froome, de Contador ou de Virenque, suivant sa génération. Alors jusqu'à peu réservé à une population sportive très entraînée, les 21 km d'ascension s'ouvrent à tous, et oui, grâce à quoi ? Grâce à l'air du souffle électrique. Assisté de puissantes batteries, monsieur et madame tout le monde et même leurs enfants peuvent gravir aujourd'hui les 1600 mètres de dénivelé positif. Alors, pourquoi je vous parle de ça dans une chronique consacrée au vin ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 130 000 visiteurs annuels qui, en roue libre et en temps libre, sont autour du Ventoux et de son vignoble. Et ils se sont rendus compte, en étudiant un petit peu cette population, bah que c'était une population, certes toujours sportive, mais attachée à la table, attachée au bon moment, après l'effort, le réconfort, on lève le coude après avoir appuyé sur la pédale, et les vignerons ont vu arriver bah, des gens qui avaient du temps et qui pouvaient expliquer un peu leur travail. Et ça, le Ventoux n'y avait pas pensé, parce que voilà, le sport et le vin, vous savez qu'on a une loi qui s'appelle la loi E20, qui interdit la publicité et la promotion des deux, mais sur le terrain, voilà, ils se sont naturellement organisés. Alors le Ventoux, c'est une appellation bien évidemment de vin. Alors c'est une grosse appellation. Il faut rappeler que c'est la deuxième plus grosse appellation après les Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône-Village. Ça fait à peu près un peu moins de 6000 hectares. Ça s'est appelé Côte-du-Ventoux. Ça s'est même appelé avant Côte-du-Rhône. Il faut rappeler qu'il y a 30 ans, ça manquait de maturité. Ce qui est très étonnant, c'est que ces coins-là faisaient des rouges surtout un petit peu acides, qui ajustaient un peu les assemblages chez les négociants. Et puis aujourd'hui, cette fraîcheur, toute cette grande partie qui se situe à l'est de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, pour savoir un petit peu. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de fraîcheur. Alors, le rouge reste toujours dominant, c'est à peu près 54% de la production. Mm-hmm. Les rosés, comme partout, c'est à la mode.
Eh oui.
On en produit beaucoup, mais les blancs sont vraiment, vraiment intéressants. Alors, il y a une grande palette de cépages, il y a de la clairette, du bourboulingue, de la roussanne, ça, c'est les principaux. Et puis, il y a surtout des talents, parce qu'il faut un certain talent pour vinifier le blanc, et c'est vrai que traditionnellement, dans les familles vigneronnes du Sud, le blanc, c'était un peu secondaire. On s'intéressait surtout à vraiment se consacrer au rouge et le blanc, on l'exprimait un peu moins bien. Alors, je vous ai amené dans mes pérégrinations. Il y a une dégustation que j'ai faite sur place. J'ai mis pas mal d'adresses et de cuvées sur le site dont on va déguster. Mais dans votre verre, je vous ai amené deux vins qui m'intéressent. Pourquoi ? Alors, le premier vin, dans le grand verre, vous allez le goûter, ça s'appelle Pur Jus du château Landra. C'est à la fois quelque chose qu'on attend des blancs du Sud, c'est-à-dire de l'arôme, ce côté aromatique, ce côté un petit peu exotique.
De l'ampleur. Ouais.
L'ampleur. Et puis, en même temps, on se dit, ça va s'alourdir quand on termine la bouchée. Et non, ça ne s'alourdit
pas. C'est rafraîchissant.
Ça reste rafraîchissant. Alors là, il y a un petit secret, c'est Château Landra, cette famille, eh bien, ils ont mis un petit peu de blanc de noir, c'est-à-dire ils ont pris des raisins noirs, le fameux cinceau, il y en a 20%, alors faut pas trop le dire, parce que dans l'appellation, on n'a pas trop le droit de le faire,
on est entre nous,
on va dire que cette appellation, en ce moment, il faut s'y intéresser, il y a des règles un petit peu rigides qu'il va falloir un petit peu détendre, donc il y a 20% à côté principalement de la clairette, de cinceau en macération, donc très pressé, et qui donne, justement, cette fin de bouche, redonne un petit peu d'éclat. Alors, le Château Landra, ils sont en bio depuis la création, c'est un investisseur qui a en 2007, de mémoire, je crois, qui a acheté, maintenant c'est sa fille, Manon, qui s'en occupe, c'est très intéressant, c'est en bio depuis le début, ils se lâchent en faisant même des pétillants naturels avec leur blanc, ils font 20% de blanc. Le second vin, ça me touche énormément, c'est la ferme Saint-Martin. C'est vraiment un domaine, si on ne le connaît pas encore, on en a déjà parlé assez souvent. Ça s'appelle les vins de Thomas. Thomas Julien fait une partie de ses vins à côté de la ferme Saint-Martin en négoce, mais uniquement chez des copains ou des proches qui achètent ses raisins bio. Et alors là, vous allez voir sur l'étiquette, c'est marqué vin de France. Ah ben oui, parce que voilà, il y a aussi cette rigidité dans les dégustations d'appellation. On comprend pas encore complètement concrètement ce que c'est que le nouveau style de ces blancs, ouvert, charnu, généreux. Et alors là, moi, je trouve que à la cuisson, j'ai testé à la maison, je ne sais plus, je pense que c'était une dorade assez classique de chez mon poissonnier, mais avec un petit peu de fenouil au four, un petit peu de tomate, quelques courgettes. Et surtout, je vous rappelle, l'élément fondateur, c'est l'huile d'olive. Si vous cuisinez du poisson à l'huile d'olive, prenez un vin blanc méditerranéen, parce que les vins blancs du Nord, qui ont énormément de qualité, vont passer à côté, vont être un petit peu en parallèle, alors que les vins blancs du Sud vont être vraiment en communion. Voilà, vous retrouvez tout
précieux.
Ça. Vous retrouvez tout ça sur le site. On va déguster.
Merci Antoine Gerbel et vive les vins blancs de Méditerranée. On va se retrouver dans un instant pour de la dorade cuite. Qu'est-ce que vous nous préparez avec la plaque chauffante et la casserole de l'équipe Charles Gaillec?
Eh ben, on a mis des bouts de dorade, le même plateau que vous avez là en cru. On va le faire en cuit, mais là poché au beurre, donc toute petite température et là c'est dans le beurre depuis une demi-heure.
Non.
Si, alors, tout doucement,
attendez, on fait fondre du beurre, il en faut une certaine quantité.
J'ai pris une plaque de 250 grammes pour faire les 6 filets de poisson qu'on a là.
Sachant qu'après, important, on ne jette jamais le beurre évidemment.
Ah bah bien sûr.
On peut le récupérer pour plein d'autres choses.
On va saucer et puis avec le deuxième vin là, un peu gras, ça sera.
Et donc là, c'est un confisage à basse température.
C'est ça, un avec du safran et un avec de la sauge et de la verveine.
Incroyable.
Pour essayer de garder, c'est inratable, c'est nickel. Parfait pour comme ça, quand on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va servir et que l'apéro se prolonge.
Pour la dégustation, on se retrouve juste après ça. Somehow de Fatoumata Diarra avec Angie Stone, la dorade, ou plutôt les dorades, c'est notre menu dominical.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce que je peux vous poser une question, Nicole? Comment vous la préparez, vous, personnellement, la dorade?
Oh là là, alors moi, je suis les recettes de mon père, qui était un bon cuistot. À l'époque, c'était un pêcheur et un grand cuistot. Et nous, on faisait mariner le poisson avant de le mettre sur le grill. Et autant que possible, au feu de bois.
Et mariner avec quoi?
Alors là, il faut que je vous donne mon héritage. C'est un secret.
Oh, mais donnez-moi quelques indices quand même.
Mais c'est un. Alors, vous faites mariner le poisson avec de l'huile d'olive, quelques feuilles de thym de laurier, un peu de piment émietté, vous salez le poisson, et le reste, je ne le dirai pas, si je le dis, un filet de vinaigre de vin.
Génial.
C'est une marinade extraordinaire. Il y a certains poissons qui ne coûtent pas cher, préparés de la même façon, sont aussi bons.
Merci pour votre conseil de marinade.
Vous allez l'appliquer?
Dès demain.
Vous allez la vendre? Alors vous me donnerez le 10% à la fin de la vie. Hein.
Nicole Dimao, une star des Halles de Sète, on a reconnu l'accent, la poissonnerie Dimao qui vend la dorade royale de l'étang de Thau sur ses étals, évidemment. Et nous, on se régale avec plein de recettes différentes, et notamment cette recette qui sort de son jacuzzi de beurre safrané, va-t-on dire?
Exactement.
C'est parti pendant une demi-heure.
Je regarde pas trop le temps, là, c'est peut-être un petit peu long, oui, une vingtaine de minutes, mais il faut surtout pas que le beurre boue. Enfin, faut rester vraiment à le faire fondre, et puis à pocher ça là-dedans, puis remuer tranquillement, au minimum sur la plaque, et puis on laisse ça. Confire, et puis
voilà. Et les chairs sont particulièrement fondantes. En même temps, il y a de la texture aussi, comme vous le disiez, Antoine Gerbel.
Il y a de la texture, et puis c'est un prolongement. C'est un exercice magnifique de goûter cru d'abord notre poisson et nous le présenter après dans la cuisson. Et vraiment, la corrélation est parfaite. On a vraiment cette résistance. Moi, je mets toujours un petit plus sur la grise.
Louis Maclassion, elle a une certaine
manière. Qui m'impressionne beaucoup.
Vive la dorade grise, contrairement à ce que disent nos amis. C'est toi, Alessandra Pierini. Il y a des idées de recettes qui nous tombent sur les réseaux sociaux et le mail dont on va déguster.
Très, très intéressante de Caroline de Lyon. Elle parle d'une salade tahitienne avec de la dorade royale. On fait donc mariner des filets de dorade avec beaucoup de citron. Au bout d'une quarantaine de minutes, on sort les filets, on ajoute un peu d'oignon, du concombre, de la carotte, de l'ail et de la crème de coco bien épaisse.
Mais c'est un peu le mode d'emploi du ceviche en fait.
Bah, voilà. Oui, c'est un
ceviche à la tahitienne.
Un petit peu moins le temps de marinade au citron, plutôt 5-10 minutes, mais ça dépend des goûts. Et ça dépend de la fraîcheur de la dorade.
Et par ailleurs, cher Charles, je vous dois quelque chose, je vous le dis. Depuis le jour où vous nous avez proposé un protocole de cuisson douce pour tous les poissons, à condition qu'ils soient entiers, j'avoue que je n'y ai jamais dérogé. Et c'est désormais ma méthode de cuisson des poissons. C'est incroyable. Et ça marche pour la dorade, évidemment. Dorade, basse température. Et c'est en plus une cuisson sans stress. Parfois, on a du mal à calculer un peu les temps pour une cuisson au four.
Exactement. Mais c'est exactement le résultat dont parlaient les pêcheurs là, sur la croûte de sel. C'est la même chose. En fait, on prend juste le poisson, juste vidé, pas écaillé, on garde les écailles. Une branche de thym romarin, idéalement fraîche. On met ça au four. On n'allume pas le four avant, four froid. On pose juste sur une plaque, sur un papier cuisson. Et puis après, voilà, selon la taille des poissons, mais c'est inratable. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut attendre un peu. Et si à 5-10 minutes près, on la laisse. Au pire, on coupe un peu le four, ça recuit, ça s'arrête.
On est à 90-100 degrés pour des poissons de moins de 500 grammes en pièce entière. 40 minutes de cuisson. Quand on est entre 500 grammes et 1 kilo, 50 minutes de cuisson. Au-delà d'un kilo 5, 1h20. Et franchement, on peut même les laisser déborder un peu. La chair est toujours juteuse, fondante, jamais sèche. Ça ne colle pas aux dents. C'est vraiment extraordinaire. On peut prendre l'apéro tranquille. Et son poisson repose au four. Vous avez tout le protocole de cuisson signé Charles Guerriec, cuisson douce, sur franceinter.fr, à la page On va déguster. On va parler évidemment aussi de dorade d'élevage, car il y a beaucoup de questions sur le sujet, mais on va évoquer d'abord la dorade en version originale italienne. Ça donne une étonnante aventure culinaire. C'est notre chroniqueuse Alessandra Pierini qui nous la raconte.
France Inter.
Buon appetito.
On va déguster.
Numéro 52. Non, ce n'est pas le tirage de la tombola de l'émission, mais peut-être votre numéro de chance. Bien que cela puisse paraître un peu étrange, dorénavant, si vous rêvez précisément d'une dorade, qu'elle soit royale, rose, grise, n'importe, vous saurez que la cabale napolitaine lui attribue le numéro 52. Il faut savoir que la vieille tradition populaire napolitaine existe une sorte de code des rêves appelé la smorfia, qui veut dire en français la grimace.
Ah ben ça fait envie.
Dans lequel les rêves sont analysés, interprétés et convertis en nombres pour jouer au loto. Je ne sais pas si c'est plus facile de rêver d'une dorade ou de gagner au loto. Mais si jamais ça vous arrive, gardez bien en tête le 52. Il ne faudra pas oublier de réduire un seul chiffre en faisant la somme de 5 plus 2 et jouez le numéro 7 si vous êtes en France, puisqu'ici, le jeu du loto s'arrête au 49.
Eh oui.
Alors qu'en Italie, il poursuit jusqu'au numéro 90.
Donc on joue plutôt le 7, hein, parce que 52 sur les grilles de loto français, c'est pas possible.
Mais je vous rappelle que jouer comporte des risques. Endettement, dépendance, isolement. Donc, on va laisser aux Napolitains gérer l'interprétation des rêves et la superstition. Mais on va quand même garder leur ferveur religieuse. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que dans le Sud, la dorade jouit d'une excellente réputation. Déjà, son nom italien, comme on a dit tout à l'heure, est orata, du latin aurata, donc doré, pour la bande de couleur or qu'est là au-dessus des yeux. Ce qui donne au pluriel orate, qui en latin signifie prier. C'est donc un poisson que surtout les Napolitains associent aux fêtes religieuses, et en particulier à la veille de Noël, où il fait partie des recettes incontournables du réveillon, même si ce n'est pas vraiment la période plus favorable pour le pêcher. À cette occasion, on le cuisine donc à l'aquapazza.
Ah, ça y est, le mot est lâché, l'aquapazza.
Aquapazza, c'est une méthode vraiment ancestrale de préparer les poissons, qui veut dire à l'eau folle. Une eau qui est altérée par un goût salin assez prononcé et qui serait l'héritage d'une technique utilisée par les marins et les pêcheurs pour cuisiner le poisson sur les bateaux avec de l'eau de mer.
Et c'est ça le secret, l'eau de mer.
Technique qui serait devenue donc habituelle dans les tavernes napolitaines au XIXe siècle pour contourner aussi les fortes taxes sur le sel. Une recette donc qui a des origines très humbles mais qui est devenue le plat mythique de la Capri Bling Bling des années 60 avec le cocktail de crevettes et la torta caprese. Aujourd'hui, il est interdit d'utiliser directement l'eau de mer en cuisine, mais il n'est pas interdit de continuer à cuisiner à l'aquapazza, qui est devenue l'une des méthodes phares de la préparation de la dorade, qui prévoit la cuisson du poisson, maintenant donc au courbouillon ou au vin blanc, pour remplacer l'eau de mer et il sera agrémenté de tomates, d'herbes aromatiques et d'huile d'olive.
Bon, c'est toute l'Italie, quoi.
Toute l'Italie. Ça fait même tomates. Un peu cliché, mais c'est quand même exceptionnel, et c'est bien ça. Le résultat, c'est une chair très moelleuse, fondante, qui baigne dans un jus onctueux et très parfumé, et qui aura gardé aussi toute la saveur du poisson.
Petit commentaire, parce que vous nous l'avez préparé, elle est là, préparée ce matin, encore tiède dans son bocal.
Ah, c'est bon, là, en plus, c'est un peu tiède comme ça, là, ça fait un peu escabèche, tout ça, là, c'est... Ah ouais,
Antoine, bien. La l'orata, la quapazza.
J'ai la bouche pleine. Ça fait ressortir aussi le côté légèrement gras de la peau, qu'on n'a pas, puisqu'elle est levée sur le cru. Et c'est vraiment... ça se marie tellement bien avec les herbes méditerranéennes, voilà.
L'acidité de la tomate,
le pain, la dorade,
c'est
on est
tout
bien.
Le sud, donc extraordinaire. Avec un bon vin du sud.
Brava, les Sandra.
Et voilà, donc celle-ci, c'est justement la recette d'un napolitain, donc que vous venez de déguster, qui est un cuisinier amateur, mais un professionnel de l'illustration. Il s'appelle Giuseppe Manunta, qui vient de publier une BD aux éditions Félès, que j'ai dévorée d'une traite. Et pourtant, la bande dessinée ne fait pas vraiment partie de mes lectures principales. Le titre, Une table pour deux, est à la fois un petit guide culinaire des principales villes italiennes, un recueil de recettes et un polar napolitain à rebondissement sur fond de mafia, transmission familiale de grande passion pour la cuisine. Un brin coquin et sexy, dans un décor en aquarelle aux traits sublimes, aux couleurs vives et exubérantes, comme le caractère de ces turbulents personnages d'ailleurs.
Il est donc question dans cette bande dessinée d'aquapazza.
D'aquapazza, bien sûr. Et donc, il nous en parle parce qu'il y a bien 13 recettes familiales de Giuseppe. Et donc, pour les ingrédients, il faut prendre une dorade, quelques petites tomates cerises, deux gousses d'ail, un petit piment, quelques brins de persil, du basilic, bien sûr, en saison, un demi-verre de vin blanc sec, de l'huile d'olive. Tout cela ressemble vraiment, comme on disait tout à l'heure, à l'Italie. Il faut écailler et vider la dorade, mais souvent, on peut aussi demander au poissonnier de le faire à notre place. On peut ainsi la cuisiner entière ou en récupérer que les filets. On la fait revenir dans de l'huile d'olive avec ail, persil, piment et les tomates coupées en deux. Et juste le temps de saisir les deux côtés. Et toujours à feu vif, on ajoute le vin blanc avec un tout petit peu d'eau. On attend que le vin évapore, on baisse un tout petit peu le feu, on sale, on couvre, on laisse cuire quelques minutes. Et voilà, Giuseppe conseille de l'accompagner avec des petites courgettes et des pommes de terre sautées. Plat simple, savoureux, on le prépare en une poignée de minutes.
C'est ça la magie de la cucina italiana.
Semplice et savoureux.
Et en plus, Alessandra, vous avez écrit la postface de ce roman graphique.
Tout à fait, c'est comme ça que j'ai découvert cette belle histoire.
Très bien, merci beaucoup. Vous connaissiez cette tradition italienne qui consistait à cuire le poisson à l'origine dans de l'eau de mer, même si aujourd'hui on sait qu'il y a une réglementation très contraignante?
Non, je connaissais pas, mais c'est pour tous les coquillages crustacés, c'est une excellente idée et ça marche tout le temps. Moi, c'est un souvenir de grand-mère qui me cuisinait tout ça toujours à l'eau de mer et c'est vrai que la différence en goût est hallucinante.
Beaucoup de questions, oulala, attention, sur la dorade d'élevage, c'est l'un des poissons qui est le plus élevé dans le monde, notamment en France, parfois même en bio, mais également en Turquie, en Grèce, un peu partout. Et il y a notamment des auditeurs et des auditrices qui nous signalent que pour avoir la garantie de manger un poisson cru non contaminé par des parasites, il faut préférer la dorade d'élevage à la dorade sauvage. Mais moi, je sais que la dorade d'élevage vous pose un problème.
Oui, il y a un problème de durabilité sur la dorade d'élevage. C'est que, en fait, elle résout pas les deux problèmes de l'élevage. C'est qu'il faut plusieurs kilos de poissons sauvages pour faire un poisson d'élevage.
Mm-hmm.
Poissons qui sont réduits en farine alors qu'ils sont parfaitement consommables directement. On pense aux anchois du Pérou, on pense à la sardinelle de Madagascar, où il n'y a vraiment plus de sardinelles disponibles pour les populations locales. Et donc, elles sont obligées de partir. Les pêcheurs n'ont plus rien à pêcher parce qu'on a ravagé les stocks de sardinelles.
Pour surtout, en faire de la nourriture.
Toute la sardinelle est achetée pour être envoyée pour faire du poisson d'élevage. Et il y a toujours le problème des excréments des poissons qui, sous les cages, sont concentrés et font forcément un problème.
Ah, c'est pas très ragoûtant, ça. Donc, non à la dorade d'élevage, il y en a jamais dans les casiers de Poiscaille.
Ah ben pas de poisson d'élevage chez Poiscaille, donc non à la dorade d'élevage. Et surtout, je sais pas
même quand elle est bio, la belle rouge, parce que ça arrive, hein, on en trouve souvent.
Oui, pourquoi pas, c'est le moins pire. Mais préférer la dorade sauvage. Les pêcheurs aujourd'hui sont en difficulté à cause des prix du carburant. Dans les grosses migrations, là, ils nous disent la dorade, elle se vend à moins de 2 euros. Nous, on l'achète beaucoup plus cher chez Poiscaille, on est mal à l'aise et on ne sait pas quoi faire. Et en fait, ce poisson-là, il doit être consommé et il doit être mieux payé aux pêcheurs si on veut qu'il soit encore là dans les 10 prochaines années. C'est ce qu'on fait chez Poiscaille.
Logique.
Voilà, j'ai passé mon anniversaire des 40 ans hier soir, que j'ai passé loin de chez moi, loin de ma compagne, à lever vos filets de dorade, à défendre cette dorade. Alors inscrivez-vous à Poiscaille.fr.
D'ailleurs,
pour mon anniversaire.
Que pour lever un filet de dorade, c'est pas si compliqué, à condition d'être bien découpé, équipé du bon couteau, hein, en l'occurrence il s'appelle
surtout
le filet.
Surtout bien aiguisé.
Voilà, bien aiguisé. C'est... Et ça, il y a un petit tuto qui a été tourné, que j'ai tourné avec Sonia Bichet. Vous savez, c'est cette écaillère poissonnière qui est meilleure ouvrière de France 2023. Et c'est sur franceinter.fr, à la page où on va déguster. Beaucoup de questions aussi sur le prix. Est-ce qu'on peut considérer que la dorade est un poisson bon marché, Charles Guerriec?
En fait, ça dépend des moments. Vous voyez, si vous allez le 15 août à 7 acheter de la dorade, il y en a tellement peu de pêchés et tellement de demandes que les pêcheurs la vendent 25 euros, 30 euros. Donc c'est surtout les restaurants qui l'achètent et vous allez la payer cher. Mmh. Là, vous voyez, là dans les prochaines semaines, là, avec la migration, il va y avoir des arrivages massifs de dorade, très mal vendus. Donc à ce moment-là, vous les trouverez sur les étals, allez, 15 euros de kilo, je pense. Ce matin, j'étais sur le marché à la place de la Réunion, il y avait des sars.
Mmh.
Ils étaient à 19,90 le kilo. À Royan, ils étaient à 10 euros il y a une semaine. On peut trouver des dorades pas chères.
Dernière question, alors vous avez 10 secondes pour y répondre. On nous pose beaucoup de questions sur la dorade coryphène, elle s'appelle dorade. C'est vrai que c'est un poisson très exotique, que moi j'ai l'habitude de consommer plutôt du côté des Antilles et qu'on trouve de plus en plus en eau méditerranéenne, mais c'est un faux ami, c'est pas une vraie dorade.
C'est ça, c'est pas une dorade, c'est complètement une autre famille de poissons. On la trouve notamment sous les tropiques, Guadeloupe, Martinique, Polynésie, le Maïmaï. On en trouve vraiment, c'est excellent comme poisson, et on commence à en trouver en Corse, en Méditerranée et même paraît au large du bassin d'Arcachon.
Effet de réchauffement climatique.
Allons-y, mangeons-la.
Elle est délicieuse.
Et c'est délicieux.
Et elle est abondante, pour le coup. Merci beaucoup, Charles Guerriec, Poiscaille. Allez voir, allez faire un tour.
Il y a des dorades en ligne en ce moment.
Et pour la semaine prochaine. Très bien. Et c'est un circuit court vertueux autour du poisson. Je vous donne rendez-vous, chers amis, à partir de vendredi prochain et jusqu'à dimanche à Uzès, dans le Gard, où va se dérouler la première édition de notre festival Saveurs et Savoirs, avec des conférences, des masterclass, des leçons de cuisine, une dictée gastronomique, des avant-premières de cinéma organisées par l'ami Laurent Delmas de France Inter, dont l'avant-première de La Passion de Dodin Bouffant, qui va représenter la France aux Oscars. Il y a du beau monde qui est attendu, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, Jean-François Piège, Michel Troigros, mais aussi Elvira Masson, Alessandra Pierini, tiens, qui va venir nous parler d'un nouveau bouquin formidable avec Stéphane Solier, et plein de talents de la gastronomie gardoise. Dimanche prochain à 11h, on va déguster, reçoit un invité de marque, la star israélo-britannique Yotam Ottolenghi. À dimanche prochain si vous avez encore faim.